Privé de sortie.
L'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille, en direct, depuis un appart, confiné, bien sûr.
Salut la Mif, bienvenue sur Privé de sortie.
Et salut tout le monde.
Bienvenue sur le 88.4 Radio Galère, tous les jours de 16 à 17. Bon, pour rien vous cacher, le compte à rebours, il est un peu enclenché ici. C'est les derniers jours d'émission, on se l'est posé et en vrai, on en a besoin. C'est aussi la dernière semaine avant le grand déconfinement. Ou peut-être pas, on sait plus trop en fait. Mais on n'est pas moins traversé que vous par toutes les questions personnelles et les questions collectives qui vont avec. On a envie, on a besoin d'autre chose, même si ça fait un peu peur, même si on sait très bien qu'on est loin d'avoir fait le tour, et surtout que c'est loin d'être fini, la crise du Covid. En vrai, chacun se débat comme il peut, pour pas être complètement submergé par ce qui se joue. On se débat et on bricole. Mais ce qui saute à la gueule tout de même dans cette histoire, c'est à quel point on a été réduit à une condition d'administrer, à la merci des gouvernants et de leurs chiens de garde qui font respecter leurs décisions. Pas seulement privés de sortie, non. Dépossédés de quelque prise que ce soit sur notre sort collectif. Privés de politique. Réduits à être les dociles téléspectateurs de notre agonie. The revolution will not be televised, comme disait Jill Scott Heron. Yeah. Eh bien, la fin du monde, peut-être que si. Alors, quitte à en être réduit à n'être jamais que des foutus chiffres, il faudrait peut-être un peu les faire parler, ces chiffres. Sans quoi, le décompte macabre quotidien ne rime à rien. Et c'est peut-être à ça qu'il sert d'ailleurs. Alors oui, nous on a essayé un peu de les faire parler, mais on n'a pas fini. Parce que finalement, qui sont les morts? Qui sont les malades? Où habitent-ils? Combien de morts à domicile? Au moins 10 000 d'après les généralistes. Mais alors comment est-ce qu'on peut mourir chez soi d'une maladie infectieuse dans un pays riche? Des questions, on en a plein encore. Quelle classe sociale? Quel genre? Oui, quel genre quand on connaît le taux de féminisation des caissières, des infirmières et des femmes de chambre? Vous savez, ces métiers que même l'orthodoxe grammaire française féminise d'emblée. Métier de femmes des classes populaires. Alors combien de femmes des classes populaires parmi les malades? Combien d'employés du social, de la livraison, la restauration, les communications, les transports et j'en passe? On en aura encore un moment avec nos questions. Et pour finir sur les chiffres, on va enfoncer une porte ouverte. Cette situation révèle mieux que jamais une sorte de loi implicite de cette société. Plus vous êtes utile, moins vous êtes payé. Alors quitte à en être réduit à n'être jamais que des foutus chiffres, il va peut-être falloir ajouter quelques zéros sur les carnets de chèques. Allez, une petite pensée à toutes celles et ceux qui se débattent avec le réel, quoi qu'il en coûte. Y compris, et en particulier, une qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui nous a donné pas mal de force en coulisses et pas que. Bisous Elisa, bonne anif.
Big up, gros bisous, bon anniversaire. Voilà, et on peut rester comme ça, dire bon anniversaire pendant très longtemps, histoire de marquer le coup en fait.
C'est ça.
Mais on s'était dit qu'on allait peut-être chanter et finalement, j'ai l'impression que c'est pas trop la dynamique là. Allez, aujourd'hui dans Privé de sortie, on aura une émission dans laquelle on aura quelques brèves comme d'habitude. On aura également l'occasion d'entendre une interview par le syndicat des quartiers pop de deux soutiens du collectif Saint-Just, et puis on aura une chronique de PF et un papier sur les retours, un retour sur les effets du confinement en psychiatrie. Voilà pour ce qui est du programme. Pour le reste, et ben vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Privé de sortie Radio Confiné. On met tous nos podcasts sur le site de Radio Galère et sur le site de Irdis. .at/pvsortie. Et puis vous pouvez également nous écouter en Loire, dans le département de la Loire, à Saint-Julien-Molin-Molette. Salut habitantes et habitants de Annonay et Saint-Julien, sur Radio d'ici du mardi au samedi à 13h. On salue aussi l'équipe de Finement Con qui nous rediffuse et bien sûr l'équipe de Piquez à Brest qui nous rediffuse également. Soyez les bienvenus à l'écoute de Privé de sortie. On enchaîne avec du son.
Ouais, aujourd'hui c'est playlist punk anglais, on commence avec The Business National Insurance Blacklist, qui parle en gros des travailleurs tricardisés par les patrons et qui empêchaient de bosser en gros. C'est Privé de sortie.
Children of wine.
pas de galère, je vais être sorti.
Et ouais, toujours à l'écoute de Radio Galère, c'est Privé de Sortie et on va enchaîner l'émission avec les brèves. On va commencer par Macron qui nous parlait il y a quelques heures à peine de du monde de la culture et de voler à son secours, tel c'est un valeureux chevalier. Vautour.
Nuance. Ouais, en effet, tout à l'heure Macron s'exprimait à propos du monde de la culture et des moyens que l'État compte y mettre. Il a annoncé que les intermittents du spectacle verraient leur statut prolongé d'une année au-delà des 6 mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'au 20 août 2021. Les artistes auteurs bénéficieront quant à eux d'une exonération de cotisations pour 4 mois. Un fonds d'indemnisation temporaire sera mis en place pour compenser financièrement au cas par cas les tournages de séries ou de films qui ont été annulés ou reportés. Petite pensée à la copine Syphilis à ce propos.
Salut à toi. On apprend que après les avoir laissé ses collaborateurs en galère, Uber rend maintenant le port du masque obligatoire et développe même un système de reconnaissance faciale pour s'assurer que ses coursiers le portent bien. Ça a été l'occasion pour moi d'apprendre que la procédure en fait de reconnaissance faciale existait déjà depuis décembre 2019 donc, pour s'assurer que la personne qui effectue la course correspond bien à celle qui est identifiée par Uber. Il est demandé aux coursiers de prendre régulièrement un selfie qu'une équipe est censée comparer aux documents fournis. Donc si la photo ne correspond pas, le compte est suspendu temporairement. Cette procédure, elle fait suite à des milliers de signalements d'attouchements, de tentatives d'agression et de viol. Concrètement, moi j'ai pas pigé ce que c'est censé empêcher, hein, cette histoire de selfie, mais ça doit donner bonne conscience à la direction, j'imagine.
Alors sinon aujourd'hui il y avait la ministre du Travail Muriel Pénicaud qui faisait un peu le point sur le chômage partiel. Et apparemment donc il y aurait plus de 12 millions de salariés du privé qui bénéficient désormais du dispositif. Ça fait donc plus d'un salarié du privé sur deux, auquel s'ajouterait donc 1 million de parents qui gardent leurs enfants et qui étaient couverts jusqu'au 1er mai et qui sont maintenant financés par la Sécurité sociale et leur employeur. Depuis lundi, pardon, qu'on basculait au chômage partiel. Et sinon, le dispositif va continuer de s'appliquer à taux plein jusqu'au 31 mai pour les secteurs dont l'activité ne pourra pas reprendre immédiatement. Et les autres, pour les secteurs. Excusez-moi, je me perds un peu dans mes brèves. Ça va ensuite évoluer progressivement avec une baisse du taux de prise en charge par l'État. Et voilà, parce que en l'État, les entreprises se voient rembourser l'intégralité des sommes qu'elles versent à leurs salariés, c'est-à-dire 84% du salaire net et 100% pour les salariés au SMIC, mais cela devrait diminuer petit à petit. Et on apprend que le coût total de ce dispositif pour la période courant jusqu'à fin mai est estimé à 24 milliards d'euros, dont 7,7 milliards à la charge de l'UNEDIC.
Des salariés d'Amazon du monde entier se rassemblent au sein d'une nouvelle organisation, Amazon Workers International. Les premières revendications concernent la pérennisation des mesures acquises dans le contexte de la crise du Covid, concernant notamment des augmentations de salaire ou sur les temps de travail. L'organisation exige aussi l'arrêt des représailles contre les salariés qui ont exercé leur droit de retrait ou de grève, le versement de 20 milliards de dollars au système de santé publique des pays où la compagnie est présente, la fermeture immédiate des entrepôts jusqu'à ce que la pandémie se soit déclarée achevée par l'OMS, entre autres. L'Amazon Workers International s'est formée il y a quelques mois après une réunion d'une quarantaine d'employés à Madrid et regroupe des travailleurs et travailleuses des États-Unis, de France, d'Allemagne, Slovaquie, Pologne et donc d'Espagne. Ils et elles ont constaté que malgré des législations différentes dans leurs pays respectifs, les problèmes qui se posent restent les mêmes et qu'il est donc nécessaire d'unir leur lutte. Vive l'Amazon Workers International.
C'est le futur. Le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a annoncé ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale le retrait de la rubrique Désinfox Coronavirus, qui avait été récemment créée sur le site du gouvernement. Alors déjà, Désinfox, merci.
On dirait un nom de dessin animé.
C'est clair. Alors, cette page officielle prétendait lutter contre les fausses informations. Évidemment, elle était très décriée, au point qu'une trentaine de sociétés de journalistes ont demandé ce week-end le retrait de cette page, le pouvoir politique ne pouvant être l'arbitre entre bonnes et mauvaises informations, et étant lui-même un gros producteur de fake news quand même.
Un gros menteur. Pendant le confinement, alors que tous les autres McDo de France étaient fermés, les 12 restos sous franchise de Bernard Simenauer ont maintenu leur drive avec autorisation gouvernementale, complicité préfectorale et de McDonald's France et pression sur les employés qui voulaient exercer leur droit de retrait. Effectivement, aucune mesure n'avait été mise en place, donc mesure sanitaire, aucun équipement de protection fourni. Sous la menace du fameux Simon Hauer, plusieurs droits de retrait ont été retirés. Il a même fait supprimer des primes ou promotions à celles qui osaient contester le caractère essentiel d'un DOMAC en période de pandémie mondiale. Les deux restos de Tours avaient fait l'objet d'un droit d'alerte qui ont été également retirés devant la pression de la direction. Selon des employés, Simon Hauer se vante de copiner avec la préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski, ce qui explique peut-être le fait que tous ces restos aient pu ouvrir dès le lendemain de l'annonce des fermetures nationales, les mesures sanitaires validées par les autorités locales. Ce qui explique peut-être aussi le silence assourdissant de la préfecture, interpellée par des syndicats sur les conditions de travail dans ces McDo. En bref, ce Bernard Simon Hauer, il semble se croire au-dessus de tout grâce à ses relations, collectionne les contrôles d'inspection du travail et compte sur la précarité de ses employés, souvent des étudiantes et étudiants, pour leur faire accepter des conditions de travail et sanitaires scandaleuses. Un bon vieux profiteur, comme on dit.
Ouais. Et sinon, il y a le syndicat de la médecine générale qui appelle les professionnels de santé et les patients à refuser la pratique de fichage indigne qui porte atteinte à l'éthique professionnelle. Qui est donc cette pratique qui est demandée par l'assurance maladie dans un communiqué. Donc il s'agit d'un communiqué diffusé ce mardi. Alors je vous lis quelques extraits. En préparation du post-confinement, l'assurance maladie demande aux médecins généralistes de collecter des données personnelles sur leurs patientes et patients atteints et atteintes du coronavirus, mais également sur leurs proches et les personnes avec lesquelles ils et elles sont en contact. Contrairement à ce qui est demandé, ce n'est pas de la santé publique et si les médecins suivent, ils et elles trahiront leur éthique professionnelle. Les contours juridiques restent flous, un décret et des ordonnances sont annoncés dans le projet de loi. Les premiers éléments connus dessinent un système portant atteinte aux libertés et au secret médical et les questions restent nombreuses et inquiétantes, alerte le syndicat.
Vous le savez peut-être déjà, Joule, Orelsan, Esprit Noir, PNL, Oxmo Puccino et j'en passe ont mis en vente leurs trophées et objets perso au profit d'associations, de fondations et d'ONG. Kalash Criminel a même mis aux enchères sa première cagoule.
Oh.
C'est quand même, vraiment, c'est quand même un objet perso, quoi, tu vois.
Faut
dans un
laver.
Autre style, la Monnaie de Paris a frappé une médaille en l'honneur des travailleurs et travailleuses en première ligne, comme on dit maintenant, au top de la niaiserie. Ils sont représentés les professions essentielles sous un nuage censé symboliser le virus et des mains pour les applaudissements de 20h. Le tout dominé par un grand merci.
Wow.
Donc la babiole est vendue 8€, dont 6 reversés à l'opération Tous Unis contre le virus de la Fondation de France. Les 1000 premières médailles seront offertes à la PHP, donc Paris, et au CHU de Bordeaux. Bon, d'une, pourquoi que à ces deux hostos? On sait pas. Et de deux, ça fait sûrement une belle jambe aux soignants et aux soignantes qui n'arrêtent pas de réclamer des moyens plutôt que des remerciements. Et merci APF pour l'info.
Et l'épidémie de coronavirus ayant amené la justice à réduire la surpopulation carcérale pour des raisons sanitaires. Alors pas tellement, mais quand même un peu. Du coup, il y a la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui s'appelle Adeline Hazan, qui a saisi la ministre de la Justice ce mardi pour lui demander que cette situation inédite soit mise à profit pour l'avenir. En effet, pour la première fois depuis plusieurs décennies, les prisons françaises connaissent un taux d'occupation global inférieur à 100%. Bon, c'est pas le cas partout, hein. C'est pas le cas dans les maisons d'arrêt où c'est souvent supérieur à 110%, voire ça peut atteindre 150%. Il n'empêche que, même si le principe de l'encellulement individuel est encore loin d'être respecté, le passage de cette barre symbolique démontre qu'il est possible de réduire la surpopulation pénale de manière efficace et rapide, estime la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.
Ok, et ben moi ce que je vous propose c'est qu'on s'écoute une interview par le syndicat des quartiers populaires de soutien au collectif Saint-Just qui ont obtenu récemment une victoire pour leurs mineurs. Mais tout d'abord on se fait un petit Angelic Upstart avec le morceau Nobody Was Saved.
Something for itself.
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Alors, bonjour Isabelle Audureau, tu es éducatrice, tu es syndicat, tu es membre du collectif 59 Saint-Just. Bonjour Antonin Sopena, tu es avocat. On vous reçoit tous les deux pour discuter un peu de la situation au squat du 59 Avenue Saint-Just, où mardi dernier, le 28 avril, 38 jeunes ont été mis à l'abri grâce à une action juridique que vous avez menée en commun avec Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde. Maître Anaïs Léonard et Maître Agnès Cochon-Riondé. Vous avez pu mener cette bataille qui dure depuis un bon moment, on va en reparler, contre le conseil départemental et obtenir en ce temps de confinement cette mise à l'abri pour 38 mineurs non accompagnés. Merci d'avoir accepté l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Cette émission Dépister la Marseille solidaire, elle vise un petit peu à regarder, observer et créer des ponts entre toutes les solidarités qui sont foisonnantes en ce moment à Marseille. Alors, ma première question, elle est pour toi, Isabelle. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu les premiers jours, les premières semaines du confinement au squat 59 Saint-Just. Comment ça s'est passé et comment est-ce que ça vous a fait réagir quant à la situation des mineurs isolés?
Ben, j'ai envie de dire, la situation, elle était déjà très, très connue au squat Saint-Just, puisque le squat s'est ouvert en décembre 2018 parce que la situation, elle était déjà inacceptable avant même le confinement, c'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années que il y a une absence vraiment de prise en charge des MNA, des mineurs non accompagnés sur les Bouches-du-Rhône, en particulier à Marseille. Des listes d'attente pour accéder à une mise à l'abri, des ordonnances de placement qui ne sont pas exécutées. Ben voilà. Donc déjà, la situation, on va dire, elle était déjà inacceptable avant même l'arrivée de la crise. Donc, à l'arrivée de la crise et malgré les mesures évidemment de confinement, ben, il y a des dizaines et des dizaines de mineurs qui se sont retrouvés dans la précarité et sans protection, alors qu'ils auraient dû accéder d'autant plus aux services de protection de l'enfance. Voilà. Donc, alors concrètement, vous connaissez sûrement le squat Saint-Just. Hein, c'est un bâtiment de 3000 m² qui a accueilli depuis maintenant plus de 18 mois des dizaines et des dizaines de familles, des dizaines et des dizaines de mineurs non accompagnés. Les conditions sont extrêmement précaires. Il n'y a pas beaucoup de points d'eau. Pas de possibilité de prévention, de prise de température, pas de gel, pas de masque. Évidemment, il y a un petit peu Médecins du Monde qui est venu faire quelques permanences. Heureusement, qui a été présente. Mais sinon, on n'a pas eu de visite ni de l'État ni du département, pas de proposition d'aide ni rien. Une promiscuité très très importante entre les familles, les bébés, les enfants, les mineurs. Et puis, pas de suivi scolaire, puisque pas de connexion Internet, pas d'accès aux ordinateurs. Voilà, donc vraiment une situation très, très dangereuse, très inquiétante pour l'ensemble des habitants de Saint-Just, mais en particulier les mineurs non accompagnés qui sont plus vulnérables par définition.
Et alors, du coup, avec cette arrivée de cette crise sanitaire, d'une part, évidemment, les conditions d'hébergement ont été beaucoup plus difficiles, avec l'impossibilité tout simplement d'assurer des conditions sanitaires correctes. Ça vous a aussi permis du coup de lancer cette saisie du tribunal administratif. Antonin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quelle a été la démarche, et à la fois au niveau juridique et politique, que vous avez menée avec Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières?
Alors, ce qu'il faut avoir effectivement en tête, c'est que une des particularités à Saint-Just, c'est que notamment pour les mineurs, c'est donc des mineurs non accompagnés qui relèvent de la protection et de la prise en charge du département, et donc ils n'ont vraiment pour lequel cette prise en charge est de droit dès lors que ces mineurs se signalent au département, et encore plus quand on obtient une décision du juge des enfants qui place ces mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance. C'est donc ce que la commission des avocats pour les mineurs non accompagnés du barreau de Marseille organise régulièrement, le suivi individuel de tous ces mineurs, et on saisit le juge des enfants, on obtient des décisions de placement, et malheureusement, ces décisions ne sont jamais exécutées directement par le département, et on doit faire des contentieux individuels, et on saisit à chaque fois le juge administratif pour forcer et condamner le département à prendre en charge ces jeunes. Cette fois-ci, l'idée, c'était de faire une démarche plus collective, et on travaillait effectivement avec Médecins du Monde et Médecins Sans Frontières pour que ce soit eux qui portent une demande collective, de dire, voilà, la situation, comme vient de le dire Isabelle, qui n'est pas du tout adaptée à des mineurs non accompagnés, qui est par ailleurs qui n'est adaptée pour personne, hein, mais spécifiquement, on a là un public vulnérable. Et donc, ce qu'on mettait en avant, c'était de faire cette démarche collective et de demander à ce qu'il y ait une injonction qui soit faite au département. Mais on a aussi mis en cause la préfecture et la mairie en disant aucune de ces institutions n'a rien fait, elle s'est même pas déplacée pour voir quel était le sort de ces enfants, alors que la situation était particulièrement grave. Et donc, voilà, on a essayé de souligner la gravité du moment et l'absence totale de réaction de la part des institutions.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Ouais. L'ADAP 13, qui est l'association mandatée par le département pour s'occuper justement de la mise à l'abri et l'évaluation de des jeunes qui arrivent, qui se déclarent mineurs, a fermé ses portes le premier jour du confinement. C'est hors la loi parce qu'ils auraient, enfin, il y avait des directives.
Et on veut dire que justement, les mineurs qui sont arrivés à ce moment-là, ils avaient absolument même pas un premier accueil pour beaucoup de l'administration. Et ça, c'est aussi une des spécificités du département. C'est des choses qu'on a pu trouver dans d'autres départements. C'est pas le cas isolé en France, mais dans d'autres départements, ça a continué à fonctionner et on a fait en sorte que les personnes qui se présentent comme mineurs puissent être prises en charge directement et même encore plus rapidement en période de confinement.
Et alors du coup, ça, cette action juridique collective que vous avez pu mener, elle a permis la mise à l'abri donc de 38 jeunes. Malgré tout, il y a des centaines de mineurs non accompagnés à Marseille et puis évidemment des milliers partout en France. Est-ce que cette victoire juridique, cette obligation qui a été faite au conseil départemental eh bien de prendre ses responsabilités, est-ce qu'elle pourrait avoir des conséquences positives sur l'ensemble de ces autres mineurs non accompagnés ?
Le département dit, nous, on n'a pas de pouvoir de réquisition, donc on a saisi la préfecture pour qu'elle réquisitionne des lieux pour pouvoir prendre en charge ces mineurs. Et la préfecture dit, il n'y a pas besoin de réquisition, vous pouvez prendre en charge ces mineurs. Ça relève donc du département et pas de l'État. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est que parce qu'il y a eu cette fois-ci un aspect médiatique et collectif et politique dans cette décision, on a obtenu effectivement une mise en œuvre une semaine plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces jeunes, ces 38 jeunes qui ont été pris en charge, il y en avait ou pour lesquels on avait déjà saisi le juge depuis plusieurs mois et pour lesquels on est revenu régulièrement pour insister sur cette condamnation. Donc là, on voit bien que cet argument qu'on nous avance de dire on n'a pas les moyens, et ben en fait, on voit que aujourd'hui, dès lors qu'il y a un peu de pression médiatique et institutionnelle, parce que le juge a mis dans la cause lui aussi la préfecture, et ben tout d'un coup là, en une semaine, le département il est capable de trouver 38 places pour ces jeunes. Donc ça montre que il y a effectivement une mauvaise volonté, une réticence intentionnelle de la part du département, et que c'est pas du tout un manque de moyens.
Alors, Isabelle, toi, tu étais présente le jour où les mineurs ont été mis à l'abri. C'était le 28, c'était mardi dernier. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe concrètement, quelle était l'ambiance ce jour-là, à la fois pour les mineurs, pour les agents qui ont été mandatés pour faire la mise à l'abri, pour les militants?
Ben, j'ai envie de dire heureusement pour les mineurs qu'il y avait toute l'équipe de bénévoles et de solidaires de Saint-Just présente. C'est-à-dire qu'à 16h, à 15h le lundi, on nous dit demain matin, il y aura 36 jeunes répartis en plusieurs groupes qui devront aller à des rendez-vous à des métros. Et là, ils iront, certains à l'hôtel, certains à Arles, certains… Voilà, on avait quelques petites consignes comme ça. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que du jour au lendemain, des jeunes qui étaient là, par exemple, depuis un an à Saint-Just, ont dû faire leurs valises, se préparer psychologiquement à un départ. Voilà, nous, on n'avait pas trop d'infos en plus à leur donner. Ça a été assez violent. Mais heureusement, on était là, on les connaissait bien, donc on a pu préparer un peu le terrain, on a fait une réunion la veille, on a essayé de les rassurer. Et c'est vrai, le matin, quand ils sont partis, ils n'étaient pas très, très rassurés, mais au bout du compte, ils étaient quand même très, très, très soulagés de quitter Saint-Just. On regrette qu'on n'ait eu aucun contact, on ne nous a pas téléphoné pour nous dire, voilà, le collectif, demain, voilà ce qui va se passer, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que le mieux c'est quoi, vous venez les chercher, vous venez les… Voilà, il n'y a eu aucun contact. Il y a énormément de défiance envers le collectif, de méfiance aussi. Bon, c'est sûr que on est dans un rapport de force, hein, de toute façon, mais dans l'intérêt, c'est vrai que dans l'intérêt des mineurs, il aurait peut-être fallu qu'on essaye un peu de faire les choses ensemble, mais bon.
La vie pendant le confinement de cette crise sanitaire, c'est quoi pour les occupants du 59 Saint-Just et les personnes solidaires aujourd'hui ?
Bah déjà, il faut savoir que dès le début du confinement, on a perdu les deux tiers des solidaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont confinés, qui ont un certain âge, ou qui fait que ça, c'est, il y a eu un certain vide et il a fallu se réorganiser, pallier le plus urgent, c'est-à-dire la nourriture. On a pu fournir des cartes internet aux jeunes pour qu'ils puissent accéder à l'école. Bon, tout ça, ça s'est fait petit à petit. Et on a installé des jerrycans d'eau de camping à l'entrée pour se laver les mains. Je ne sais pas si vous voyez le niveau, quoi. C'est-à-dire que voilà, le jerrycan qu'il faut remplir 15 fois dans la journée parce que 200 habitants qui sortent et qui rentrent, vous imaginez ce que ça peut donner. On a eu beaucoup de solidarité. Hein. Il y a des gens qui nous ont amené des masques, il y a beaucoup de personnes qui nous ont amené à manger. Voilà, on sent qu'il y a eu aussi un élan solidaire, mais ça, c'est aussi la particularité à Marseille. Il a fallu aussi, il y a eu un gros travail de communication auprès des habitants. Pour leur expliquer ce que c'était, parce qu'au départ, ils avaient peur, est-ce qu'on ne comprenait pas ce virus, etc. Donc, il y a eu, dans plusieurs langues, il y a eu plusieurs réunions, Médecins du Monde a fait un gros travail auprès de prévention, auprès des habitants. Enfin, voilà, ça a été. Maintenant, j'ai envie de dire, oui, les réflexes sont à peu près pris. Bon, la distanciation sociale, vous imaginez bien que ce n'est pas possible, parce que quand tu dors à 8 dans une chambre, ce n'est pas possible. Puis en plus, il y avait déjà des punaises avant, des cafards, voilà, donc c'est compliqué.
Antonin, j'ai peut-être une question pour toi. Pour l'ensemble de ces personnes, qu'il s'agisse des mineurs non accompagnés ou pour les familles, notamment celles qui sont encore assez injustes, en ce temps de crise sanitaire, est-ce qu'on peut considérer que les droits des personnes sont respectés? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une égalité des droits ou dans le respect des droits des personnes, des droits fondamentaux notamment?
Encore une fois, il se trouve qu'une particularité du public qui est à Saint-Just, y compris pour les familles, alors peut-être pas toutes à 100%, mais une grande partie, il s'agit de demandeurs et demandeuses d'asile qui, dont normalement, en fait, l'hébergement relève déjà d'une obligation qui pèse sur l'État. Donc, il y a déjà de toutes les manières pour toutes ces personnes-là, en période générale, j'ai envie de dire, un non-respect des droits fondamentaux. Je voudrais juste revenir sur donner une anecdote sur cette question de la défiance des institutions par rapport aux collectifs citoyens. Parmi les arguments qu'on nous a présentés en défense au département, ils sont quand même osés nous dire que ces jeunes s'étaient mis eux-mêmes dans l'illégalité puisque le squat avait été vidé de ces jeunes il y a un an et qu'aujourd'hui, il y avait un nouveau des jeunes qui est complètement ahurissant parce que l'illégalité, elle vient du fait que ces jeunes, ils ne sont pas pris en charge par le département, qu'ils soient au squat ou qu'ils soient dans la rue, de toutes les manières, le département doit les prendre en charge. Et donc, effectivement, c'est particulièrement choquant d'entendre le département mettre en avant qu'il y aurait une sorte de responsabilité du collectif à accueillir ces jeunes-là. Mais ils devraient faire quoi, le collectif? Les laisser à la rue? Enfin, c'est absolument ahurissant.
Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Comment est-ce que vous imaginez, je vous pose la question à tous les deux, ce jour d'après pour les collectifs militants marseillais et d'ailleurs.
On peut se dire effectivement que de manière générale, ce qu'on a pu voir ces dernières années, décennies dans l'Europe du Sud, ce qui avait une tradition peut-être plus forte qu'en France déjà instaurée sur l'autogestion, les réseaux de solidarité, etc., c'est que dans les batailles politiques et les moments où il y a eu des batailles politiques à mener, ces réseaux-là ont été des véritables forces pour. Mais c'est vrai que les deux doivent s'allier, c'est que je pense que cette solidarité, certes, elle apporte des choses directes en termes de pallier les carences des pouvoirs publics, mais aussi elle donne des capacités et du pouvoir aux personnes qui s'y engagent. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi, ça crée des réseaux et ça crée des réseaux pour s'organiser et aussi pour soutenir la contestation. Donc, c'est vrai que. Comment je la vois, je pourrais pas dessiner un portrait très précis des temps à venir, mais c'est sûr que c'est important de maintenir et de s'appuyer à l'avenir sur les réseaux qui se sont créés, qui se sont renforcés, puisque tout n'est pas né du jour au lendemain. Hein, mais voilà, c'est vrai que là, il y a pas mal de réseaux qui se sont renforcés ces derniers temps, et malheureusement par nécessité et du fait de l'abandon des pouvoirs publics, et que c'est vrai qu'il faut aussi s'appuyer là-dessus.
Je me permets une relance là-dessus. Justement dans l'émission spéciale McDo réquisitionné, Kamel faisait une référence à l'histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme, cette tradition du mouvement ouvrier de prendre en charge des activités qui aujourd'hui sont pensées comme dédiées à l'État. Et il y a beaucoup de collectifs militants en ce moment qui discutent de ça. Est-ce que On le fait malheureusement, on le fait à défaut. Est-ce qu'on se bat pour ne plus le faire?
Là, dans l'action qu'on a faite, évidemment que on salue l'action au quotidien du collectif Saint-Just qui effectivement a pu quand même mettre à l'abri ces gamins-là et qui les a aussi qui a fait beaucoup plus que les mettre à l'abri, parce que le collectif 50 Saint-Just fait beaucoup aussi pour l'accompagnement de ces jeunes. Mais néanmoins, c'est vrai que ces jeunes, ils ont le droit à une prise en charge qui relève de l'État, qui doit être normalement d'une qualité quand même bien supérieure et que ne peut pas fournir effectivement le collectif. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus. C'est pas parce qu'on prend en charge qu'il faut considérer que du coup l'État ou les institutions sont dédouanées et qu'on n'a pas de compte à leur demander. Et donc effectivement, je pense que c'est un peu finalement dans cette action, c'est ce qui se passe, c'est que on marche un peu sur nos deux jambes. D'un côté, il y a quand même gérer le quotidien et faire face et aider ces jeunes et de s'auto-organiser pour ça. Et de l'autre, de pas lâcher, de dire, mais il y a des droits fondamentaux, il y a des obligations qui pèsent sur la tête, sur l'État ou sur le département, et ils doivent en rendre des comptes et ils doivent les assumer.
Privé de sortie. Privé de sortie, c'est tous les jours de 16 à 17 heures sur Radio Galère.
Comes at all, but there's this bird across the way. I know she fancies me and everything, but it's actually got a 40 inch butt and she's just
living in her places, driving on a tube train, working all day long, and you know no one, so you don't know how, and you're in our team, so you watch television, solitary confinement.
On your own,
by yourself,
on your own,
by yourself,
on your own,
by yourself.
Galère, privé de sortie. Vous êtes toujours à l'écoute. On vient d'écouter The Members, Solitary Confinement, c'est un morceau de circonstance. Et tout de suite, on va vous parler d'un communiqué qui nous vient du collectif des habitants et habitantes du 3e arrondissement.
Tout à fait. Pour mémoire, on avait au téléphone le 14 avril dans l'épisode 22 de l'émission. Donc on avait un membre du groupe d'entraide du 3e arrondissement de Marseille. Et comme tu disais, ouais, on a appris aujourd'hui que le collectif vient communiquer, que le collectif a décidé de mettre fin à la plateforme téléphonique qu'ils avaient organisé, malgré son utilité pour les habitants et habitantes et partenaires, et malgré l'implication de celles et ceux qui s'organisaient pour répondre aux appels et aux besoins exprimés. Pour donner un peu une idée de l'activité de cette plateforme téléphonique, d'après le groupe d'entraide, depuis le 20 mars, jusqu'à 16 compagnons et compagnonnes bénévoles ont décroché le téléphone 649 fois et rappelé nombre de personnes suite aux 538 messages vocaux laissés sur le répondeur. La plateforme aura donc permis à 2096 personnes, soit environ 538 familles, de trouver une écoute bienveillante et des solutions infimes par rapport aux besoins alimentaires et d'hygiène majoritairement. Solutions infimes, c'est la formule qui est employée dans le communiqué. Et du coup, dans ce même communiqué, le groupe d'entraide explique le pourquoi de cette interruption. Je vais vous en lire un petit bout. Alors pourquoi donc arrêter ? Parce qu'il est inacceptable d'être employé malgré nous par les institutions comme première ligne à la guerre menée aux plus précaires et aux quartiers populaires. La mission assumée par le groupe d'entraide pourrait durer de façon éternelle au regard des besoins. Parce que nous voyons le piège de la sous-traitance des compétences de l'État et des collectivités territoriales se profiler. C'est bien évidemment au pouvoir public, mairie, métropole, préfecture, conseil départemental et régional, etc., d'assurer aux habitants et aux habitantes des conditions de vie dans la dignité. Il est plus que temps de laisser pourrir la situation, de laisser mourir des gens chez eux, affamés, sans aucune ressource, préférant souvent renoncer à s'alimenter pour nourrir leurs enfants. Parce que le groupe d'entraide ne peut admettre que les habitants du 3e soient des oubliés et abandonnés de la République, il devient urgent de s'organiser pour réfléchir à l'après-confinement. Et enfin, parce qu'il devient aussi urgent de se donner les moyens d'analyser et de partager nos colères, de faire part de nos revendications, de réveiller les acteurs des politiques publiques, d'agir, de s'organiser et lutter pour que nos libertés et nos droits fondamentaux soient enfin respectés. Et du coup, en conclusion, le groupe d'entraide du 3e arrondissement demande que les institutions assurent dès maintenant un accueil inconditionnel et accordent le soutien attendu et nécessaire aux personnes et familles pour leur permettre de vivre dignement. Voilà pour ce qu'il en est de ce communiqué. Moi qui me rappelle juste un petit reportage que j'ai vu vite fait qui passait sur internet de Brut comme ça, qui avait fait un petit truc dans le quartier Bassins. D'ailleurs, très chouette reportage pour le coup. C'est assez rare pour être.
Ouais, pour une fois, c'est vrai que c'est. Comme tu dis, c'est assez rare pour être souligné, quoi.
Ouais, et tu vois d'ailleurs qu'il y a
c'est pas misérabiliste, c'est pas victimaire. Carrément. Franchement, c'est. Ouais, ça fait quand même assez plaisir.
Et t'as l'impression d'entrer un peu dans la vie de ce quartier-là, qui est réellement assez unifiant. Enfin, il y a manifestement des choses chouettes entre les habitants. Et tout ça qui est pas non plus dans le déni de l'existence du business et tout ça, mais plutôt franchement le reportage est chouette. Et pourquoi j'en parlais, juste parce que ça fait un peu penser à ce qu'est en train de raconter là dans ce communiqué le groupe d'entraide du 3e arrondissement. On voit une figure comme ça qui en l'occurrence s'appelle Nadia et qui manifestement passe toute sa journée à faire du travail social pour les habitants de Bassins de façon absolument bénévole. C'est assez admirable ce qu'elle fait, mais ça pose exactement les mêmes questions. L'État décidément a décidé d'abandonner les populations à leur sort, et c'est pas nouveau pour les quartiers nord, mais dans la crise du coronavirus, ça se voit encore plus. Et voilà, il est temps de à la fois taper du poing sur la table, et en même temps, c'est très effrayant ce que ce genre d'arrêt va occasionner, parce que voilà, faute de quoi, on sait pas comment les gens vont réussir à se débrouiller.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, ça rejoint même ce qu'on vient d'entendre sur par les membres du collectif Saint-Just, où en fait, ça pose la question insoluble. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on laisse l'État ne rien faire ? Est-ce qu'on fait l'État ce que l'État devrait faire ? Est-ce qu'on se substitue ? Est-ce qu'on fait de l'humanitaire ? En fait, c'est des questions auxquelles on peut pas répondre, quoi, parce qu'en fait, concrètement, on peut pas laisser les gens à la rue, on peut pas laisser les gens sans nourriture, voilà. Mmh.
Ouais, et puis c'est des questions qui se posent d'autant plus dans la durée de ce confinement et dans la perspective d'un non-déconfinement, en fait, et où on se demande bien si le déconfinement pour l'État va être synonyme de reprise de ses activités et de ses aides, ou bien alors juste de prendre le prétexte d'un non-confinement, en fait, pour continuer à abandonner, en fait, tous les gens qui ont le plus besoin, en fait, de ce soutien-là, quoi.
Si. J'en profite juste pour évoquer un petit, enfin un article qui a été diffusé au départ par l'AFP, repris dans Ouest France et dans Le Point. Je voulais en parler dans les brèves et puis finalement j'ai un peu zappé, mais là le fait d'en parler là et tout, ça m'y fait repenser. C'est un article un peu bizarre, vous tomberez peut-être dessus, où il est question de clusters familiaux dans le nord, dans les quartiers nord, et qui est censé être un article qui appelle les pouvoirs publics à se responsabiliser, mais qui est très stigmatisant en même temps, qui laisse entendre qu'il y a des endroits où l'épidémie elle serait plus forte qu'ailleurs et tout ça. Évidemment qu'il y a des endroits où l'épidémie est plus forte qu'ailleurs et qu'évidemment tout ça recoupe, comme on l'a répété tout au long de l'émission, les conditions sociales des gens en général et des malades en particulier. Et évidemment que par exemple des gens qui seraient malades et qui seraient amenés à se confiner dans un appartement où il y a une promiscuité de ouf, c'est un risque de contamination pour les autres gens de l'appartement. Mais pour autant, déjà, pour être très clair, nous on s'est renseigné auprès de gens qui travaillent dans le coin, le château en santé, tout ça, d'après elle et eux et tout, il n'y a pas particulièrement plus d'épidémie là-bas qu'ailleurs. Et surtout, il est très important de ne pas stigmatiser les gens et de faire en sorte, voilà, de faire la part des choses et tout ça, tout en critiquant, en effet, comme on l'a fait un certain nombre de fois dans cette émission, le fait que le confinement ne correspond pas à toutes les situations sociales et que parfois il est aggravant plutôt qu'autre chose, quoi.
Yes, allez, on va continuer avec la chronique de PF.
Qu'on découvre en même temps que vous. Je crois que c'était une petite surprise pour nous.
Ah yeah. Ouais, c'est ça.
Merci PF.
La chronique de PF.
Je sais pas pour vous, mais moi, à quasi chaque fois, je réagis en m'exclamant des trucs comme la 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 la, je sais pas vous, mais moi, je sais pas. Mais quoi? Comment on va faire? Comment ils vont faire? Non, mais sans blague, comment ça va se passer? Quelle transition, quelle progression on va pouvoir faire, accepter? Comment on va s'en passer, les remplacer? Comme le dit un certain, il va falloir que ça se passe dans le calme, avec beaucoup d'organisation, de pragmatisme, de bonne volonté. Et comment eux, les trois là, comment ils vont pouvoir s'en passer? Passer à autre chose? Oublier, mettre derrière soi, être content, oui, puis quoi? Quoi après? Le vide? Le creux? Le doute? Le réflexe? L'envie? Le manque? Parce que oui, c'est aussi ça le déconfinement. La fin de l'émission privée de sortie sur Radio Galère 88.4, l'émission des confinés de Marseille depuis un appart confiné comme les autres. Eh oui, les trois là, ça va vous faire tout drôle. Peut-être une immense gueule de bois, ou d'exaltation, un soulagement, je sais pas, mais ça va vous faire drôle, à nous aussi. En fait, les gars, on sent quand même comme une petite pointe d'excitation dans vos voix quand vous nous rappelez que c'est la dernière semaine, que c'est le décompte. Le décompte? Non mais vous hallucinez, c'est pas sympa! Comment on va faire quand on a plein de voix dans nos têtes qui étaient bien soulagées de pouvoir partager ce qui s'y passe? Perso, R, on se connaît pas, mais j'ai adoré te suivre radiophoniquement, ça va me manquer. Et pour moi, faire une petite chronique, bon, ça a été une nouveauté. Un imprévu, un pourquoi pas, allez. Puis c'est devenu une envie dès le matin au réveil. Ça a été un catalyseur, un défouloir, un plaisir finalement. Et là, ben, j'avais pris un peu l'habitude. Comme l'habitude aussi de me dire en moi-même que le confinement, ça me permettait de faire quasi comme avant. Pas sortir de chez moi, pas envie de socialiser, traîner à la maison. Mais avec l'avantage de ne devoir me justifier au regard de personne. Dis, PF, t'as fait quoi la semaine passée? Me demanderait ma mère. Ben, je répondrais, rien de spécial, je suis restée à la maison. Et la conversation en resterait là. Pas de, ah, il faudrait peut-être commencer un travail, ça te ferait du bien, tu devrais sortir un peu, faut pas être dépressive. Oui, pas déprimée, hein, mais dépressive. Elle a pas tort. Mais elle n'a pas raison non plus. Bref, bon. J'ai eu donc pris l'habitude de ce petit rendez-vous par les ondes, ce petit moment arrêté devant le poste, enfin l'ordi, entre 16h et 17h, et que j'ai eu plaisir à entrevoir comme un moment de rassemblement avec les copaines, les camarades, un moment où je me tisse avec les défis et les luttes, avec les forces, les doutes et les nouvelles des combats divers et quotidiens. Comme je l'ai lu d'un soignant dans une association de soutien aux patientes en soins psy, dans laquelle, dès le début de confinement, IL, patientes et soignantes, ont mis en œuvre de fabriquer une radio interne. C'est que la radio comme médium, Ça décloisonne les expériences sur fond de tous les liens sociaux préexistants. C'est la matérialité altérée. Ce n'est pas pour rien que émissions radio, podcasts et radio libre et déconfinées ont fleuri en très peu de temps après le début du confinement. Elles auront permis de briser l'isolement, de se rassembler par-delà les murs, de partager les expériences, de diffuser les paroles, d'actualiser les luttes, de faire des booms, des podcasts intimes et politiques, et d'écouter des super playlists. Mais dites donc, les loupiots là, vous y avez pensé quand viendra le deuxième confinement?
Big ouais, PF, on y a pensé, ouais, au deuxième confinement.
Et on sait qu'on revenait au deuxième confinement.
Ouais, ça c'est une promesse là que DJ B est en train de vous faire. On en discutera.
Un peu en l'air.
Au moment opportun.
Et nous aussi, allez, on se demande comment tu vas faire et comment on va faire sans t'écouter.
Allez, on s'écoute un petit peu de punk. On revient juste derrière pour parler psy.
C'est Cockney Rejects, Badman.
Yes, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Galère, c'est privé de sortie et voilà. Alors hier, moi, je scrollais Facebook éperdument quand je suis tombé sur un article partagé dans un groupe qui parle de psychiatrie. Le groupe s'appelle Collectif D39. Je reste un peu vague parce que c'est pas forcément un groupe à conseiller autour de ces questions et qu'il est de toute façon très peu actif. Pour la faire rapide quand même, c'est un groupe qui a été créé à l'initiative de personnes qui se disent soignantes, même si perso c'est une appellation qui me dérange un peu, même beaucoup. Et le collectif D39 donc est né en 2008 quand Sarko a commencé à défoncer sérieusement l'hôpital psy sur des alibis sécuritaires. Et dans ce groupe Facebook, il y a donc une majorité de personnes qui se disent soignantes, mais il y a aussi des personnes psychiatrisées et des proches de personnes psychiatrisées. Et à l'époque de Sarko, il disait à la formation du groupe ne pas accepter que la plus haute autorité de l'État laisse croire que les personnes atteintes de troubles psychiques font plus souffrir la société que celle-ci ne les aliène. Bon, je trouve que ça reste une base politique assez correcte, même s'il faut avouer que c'est pas ultra convaincant non plus. Donc voilà, donc ça c'était pour le contexte qui va être important pour la suite. Et je disais donc que je suis tombé sur le partage de cet article dans ce groupe, d'un article dans ce groupe, et comme tout le monde, j'ai lu le titre. Je suis allé lire les commentaires et après je suis allé lire l'article. Je reviendrai sur les commentaires plus tard parce qu'ils sont assez intéressants, mais commençons déjà par l'article qui est paru sur le site de Libération hier, intitulé « Covid-19, des nouvelles du front des fous ». Voilà, donc déjà merci à Libé pour le titre bien dégueu. L'auteur c'est Éric Favreau, grand reporter, responsable des sujets santé à Libé, donc autant dire qu'en ce moment ça doit être le boss de l'avant-dernier niveau de la rédaction du journal. En vrai, c'est un article assez moche politiquement sur la psy, mais intéressant à plusieurs égards. Alors bon, qu'est-ce que dit l'article? Ça fait 2 minutes que j'en parle et on ne sait toujours pas de quoi il parle, donc je vous lis déjà le chapeau. L'hôpital psychiatrique a bien tenu le coup en dépit de moyens dérisoires. Les malades longue durée n'ont pas craqué avec le confinement. En revanche, les urgences ont vu affluer des patients inconnus jusque-là. Il y a 2 parties dans l'article. La première, elle est constituée de témoignages de médecins à propos de la gestion de la crise dans les hôpitaux psy, des témoignages border psychophobes à certains moments, ce qui n'est pas très étonnant et je vous les épargnerai, mais c'est des témoignages desquels on peut en apprendre un peu plus sur les conséquences psychiques du confinement notamment. Et la deuxième partie parle de recherche et d'antipsychotiques, je reviens un petit peu là-dessus derrière. Et donc d'abord, il y a un grand docteur d'un HP du Nord-Est de Paris, les docteurs sont toujours grands de toute façon, un grand docteur donc d'un HP du Nord-Est de Paris qui a beaucoup la parole dans cet article et qui commence par dire « Dans nos unités d'hospitalisation, je cite, nos patients longue durée en particulier n'ont pas craqué ». Certains patients n'ont pas vu de grandes différences. Ce qui est très lourd à gérer à l'habitude, ce sont les angoisses sans objet. Et là, en fait, y avait un objet aux angoisses. Et apparemment, ça a été le cas dans plusieurs hôpitaux en France. Le Toubib continue. Nos patients que l'on voyait en ambulatoire s'en sont également bien sortis. Donc ambulatoire, c'est à la maison. On a continué à les suivre avec des téléconsultations. Ça a bien fonctionné. Et quand on n'avait pas de nouvelles, on allait les voir. Le constat, apparemment partagé par plusieurs équipes de plusieurs hôpitaux, c'est que côté personnes psychiatrisées, d'un point de vue psychique en tout cas, le confinement n'a pas eu autant d'effet que nombre de personnes craignaient. Par contre, l'article nous dit que le confinement a fait affluer vers les hôpitaux des personnes inconnues jusque-là du monde dit de la santé mentale, des personnes qui craquent après des semaines de confinement à leur domicile. Il y a une cheftaine de service psy qui raconte « Au début du confinement, l'activité s'était effondrée. Et depuis quelques semaines, nous voyons arriver des jeunes sans antécédents. Ils présentent des bouffées délirantes aiguës, aussi bien des hommes que des femmes. » On a regardé s'il y en avait plus qu'avant et c'était bien le cas. Et on s'y attendait pas du tout. Bon là, le journaleux ne peut pas s'empêcher de donner quelques exemples de délires qui font du clic, du sensationnel psychophobe. Voilà, le journalisme est ce qu'il est. Et du coup, la chef de service continue à propos des arrivées de nouvelles personnes. Les éléments déclenchants, bien sûr, il y a le climat très anxiogène de ce confinement. Et nous sommes dans un des départements les plus pauvres de France avec des conditions de logement parfois très difficiles. Il s'agit du 93. Le confinement pouvait être très tendu, mais ce n'est pas très clair. On s'attendait à voir nos malades habituels. Eh bien non, certains de mes collègues ont mis en avant des hypothèses sur l'usage de médicaments, des abus de drogue, etc. Elle conclut en avouant qu'elle n'a pas de vraie réponse et que c'est juste des pistes de réflexion. En tout cas, ça donne un peu à réfléchir. Et puis, il y a le premier Toubib qui explique comment il a valeureusement fait face à la crise dans son service, en disant que c'est les docteurs qui ont fait face au truc, alors qu'on imagine qu'il y a bien d'autres gens qui ont fait face à cette crise. Il dit qu'ils n'ont pas eu de masque, qu'ils se fabriquaient des tenues de protection avec des sacs poubelles, comme dans les hôpitaux classiques, quoi, disons. Il dit aussi qu'il y a eu de l'entraide interhôpitaux. Il y a des hôpitaux qui ont envoyé des infirmiers, des infirmières, des Toubibs à l'autre bout de la France grâce à l'ONG Aviation Sans Frontières. Je découvre ça, c'est un truc de ouf. Et quand le journaliste demande aux Toubibs quelles ont été les aides proposées par les institutions sanitaires, réponse zéro, à part des recommandations qui ne servaient à rien. Ici, ça a été la République autonome de la psychiatrie. SIC. Concernant les contaminations Covid, là c'est assez intéressant. Il y a eu beaucoup de personnel soignant infecté. Dans un hôpital psy parisien, 19% du personnel médico-soignant a été infecté, alors que seuls 3% des personnes psychiatrisées ont été dépistées positives. Il faudrait voir quels sont les échantillons, tout ça, et je me fie uniquement aux chiffres des journaleux. Mais du coup, il y a des chercheurs qui ont commencé à bosser sur le sujet en se disant qu'ils tiennent peut-être là des pistes pour un médoc contre le Covid, puisque la grosse différence entre le personnel d'un HP et les gens qui y sont enfermés ou suivis, ben c'est que les premiers ne prennent pas les médocs, que les seconds avalent. Et donc, il y a un médoc, le Lagarctil, qui est étudié actuellement par quelques chercheurs parisien pour voir s'il a vraiment un effet ou pas sur les malades atteints du Covid. C'est aussi appelé la chlorpromazine et il est très répandu dans les traitements médicamenteux des troubles psychiques. À suivre, en tout cas, si un antipsychotique peut guérir du Covid, c'est le gouvernement qui gagnera la paix sociale à coup sûr. Et puis, sous l'article, il y avait quelques commentaires assez intéressant que je voulais partager avec vous. Le post et les commentaires sont publics, donc pas de souci pour les partager. Il y avait notamment, du coup, comme c'est dans ce groupe, il y a des Toubibs et il y a des personnes psychiatrisées. Des Toubibs surtout. Le problème, c'est pas que les malades chroniques dont on a pu admirer les capacités de survie psychique. Même si la perspective du déconfinement les inquiète. Le problème, ce sont les normopathes qui tenaient avec le boulot, la société et qui la décompensent, dont beaucoup sur un registre psychotique. Un autre abonde en disant que c'est ce qu'on observe aussi dans notre secteur, avec quand même la nuance qu'un certain nombre de patients limités mais existants ont arrêté soins et traitements peu avant ou avec le confinement et que les rechutes arrivent. Et par contre, ajoute un troisième, pour les patients connus, la téléconsultation commence, qui est citée dans l'article, commence à ne plus suffire, ainsi que le manque des hospitalisations de jour. Et puis il y a une personne proche de personnes psychiatrisées qui dit, c'est exactement ce qui est dit dans l'article, ma mère a parfaitement vécu son confinement et c'est moi qui ai plus pété un câble qu'autre chose. Ça nous montre la fragilité psychologique des populations du monde moderne. Et puis enfin une personne psychiatrisée qui conclut, bonsoir, en tant que dit malade, nous nous confinons déjà à longueur d'année, non en raison de notre pathologie, mais par retranchement dans un antre. À force de pointage du doigt, de mots, de comportements hostiles, méfiants de la société globalement et depuis toujours dans les relations personnelles et familiales, Ostentatoire ou discret, ces regards nous renvoient systématiquement à une anormalité. Donc beaucoup d'entre nous sont dans leur élément dans un confinement qui est constant. Je ne sais pas si mes mots et la vie suivante seront sensés, mais qui sait si aussi des personnes d'ordinaire en soins ne vont pas trouver une force oubliée de devenir plus indépendants de la psychiatrie, qui est aussi une addiction et une persuasion, puisqu'on nous convainc et on se convainc que nous ne pouvons que trouver d'aide auprès d'elle. Il me semble que nous ne cherchons plus alors en nous ce qu'il nous reste de volonté d'être. Et bah voilà, ça fait une belle conclusion pour tous ces articles. Carrément. La force à toutes celles et ceux qui ont à l'intérieur. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on va, qu'on va terminer l'émission, je crois, parce qu'on est un peu à la bourre d'ailleurs.
Complètement.
Complètement à la bourre. Et ben, on se retrouve demain à 16h et prenez soin de vous.
Et voilà.
Et voilà. Et ce sera déjà beaucoup même. Ouais.
Et n'oubliez pas de nous envoyer vos dernières chroniques sur pvsortie@riseup.net.
Tout de suite à 17h, c'est l'émission Libre Débat. Ciao, ciao à vous, salut.
Ciao.
Privé de sortie. C'est l'émission des confinés de Marseille, en direct, depuis un appart confiné, bien sûr.
Thank you.